Aujourd'hui, on débat sur l'impact des Oscars sur la fréquentation en France, mais on évoquera aussi quelques heureux gagnants et un film italien au top du box-office. Opening weekend numéro 67, on est parti.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Bonjour à tous, bonsoir à tous si vous nous écoutez à une heure déjà tardive. Nous sommes ici dans les bureaux de Vegaprod qui nous accueille très gentiment pour enregistrer ce podcast. Vegaprod qui est à l'origine du débrief film, Lionel Guenoun, on le salue. Et je suis évidemment aujourd'hui avec notre équipe de chroniqueurs que vous connaissez tous, à commencer par Arthur Pavlovski. Bonjour Arthur.
Salut Tom, salut à tous.
L'immanquable Julien Bernard, bonjour Julien.
Bonjour tout le monde.
Et enfin, comme souvent aux manettes, Max Marjollet.
Coucou.
Alors messieurs, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet avec un débat, je le disais en préambule, les Oscars et principalement l'Oscar du meilleur film. Voilà, les Oscars ont eu lieu il y a maintenant 10 jours à Los Angeles. Ils ont couronné Oppenheimer avec cette récompense, dont l'Oscar du meilleur film. S'en est suivi derrière une reprise de l'exploitation du film dans les salles françaises. Avec, je crois, un certain succès. On est à 10 000 entrées sur sa reprise. Moi, la question que je vous pose, c'est si on regarde un peu d'année en année et sur votre ressenti aussi personnel, est-ce que ces reprises-là ont vraiment un impact sur la carrière du film ? Est-ce qu'elles ont l'impact que, par exemple, les Césars ont sur l'exploitation française de ces films ?
Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que d'année en année, ça peut dépendre du marché. Là, comme tu l'as dit, les 10 000 entrées sur Oppenheimer, on ne peut pas dire que ça fait une grande différence aux 4,5 millions d'entrées déjà enregistrées. Ce qu'on peut voir, c'est que le film a quand même été reprogrammé sur plus d'une centaine de salles. Mais moi, j'ai des cas particuliers que j'ai en tête, notamment sur le film Moonlight, où après son Oscar, ça avait vraiment servi de levier et presque de deuxième carrière au film. Pareil sur The Artist, voilà.
Donc finalement un peu comme sur les films français au César, quand ils ont une exploitation plutôt limitée, ça leur permet de sortir un petit peu de l'ornière,
de leur donner
un coup de boost. Ouais. Max.
Ouais, tout à fait. Quand des gens les ont ratés, en fait, globalement, c'est un moment où les gens vont le découvrir. Spotlight, il avait quasiment multiplié ses entrées par deux alors qu'il était en cinquième semaine, je crois, sur les Oscars. Il y a pas mal d'exemples comme ça. Mais
Parasite, non ?
À peine. Mais Parasite, il était déjà à 2 millions.
Parasite, c'est déjà un
phénomène.
2 millions.
Ouais. Oppenheimer, voilà, il a fait plus de 4 millions d'entrées. C'était déjà un phénomène. Il n'avait pas grand-chose à gagner en fait sur sa carrière. Mais les Oscars, ils ont servi, par exemple, à Anatomie d'une chute, parce qu'on en parle depuis 3 semaines, vu qu'il a plein de nominations. Et ça lui a permis cette ressortie avec les Césars cumulés aux Oscars, ouais. Où il a fait je ne sais pas combien de milliers d'entrées.
Il y a eu ce double levier, en effet, pour Anatomie d'une chute, d'ailleurs, qui avait une carrière qui ne s'était pas vraiment arrêtée, même avant les Césars. Julien, tu voulais réagir ?
Non, alors, vous avez à peu près tout dit, mais c'est vrai que c'est aussi en fonction du potentiel du film, de ce qu'il avait déjà engrainé avant. Sur un Oppenheimer, évidemment, ça la marche. On a envie de dire que c'est plutôt une séance de rattrapage, mais qui n'est pas négligeable. Hein. Il y a toujours une ressortie, de toute façon, du meilleur film sur une centaine de copies. Sur Anatomy, oui, on a vu. De toute façon, aujourd'hui, il est pratiquement pas loin des 2 millions d'entrées. Donc, c'est un énorme boost. Mais comme l'a dit Max, c'est un boost qui vient depuis janvier. Il y a eu aussi Télérama, UGC, quoi, toutes ces semaines particulières qui ont permis aux gens de rattraper, ou c'est même pas ça, c'est vrai que le cinéma, ça joue pas forcément sur les 4 premières semaines ou sur les 2 premières semaines, ça dépend de la sensibilité du film. Sur un film plus petit, oui, forcément, l'impact va être plus grand. Sur l'année dernière, c'était quoi, Everything, Everywhere?
Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as raison, Julien, le film n'était pas à la base pas sorti en salle, et c'est vrai qu'il avait eu une première exploitation grâce à un visa temporaire, et les Oscars lui avaient donné une seconde vague d'exploitation via un deuxième visa, ou toujours le même, mais il avait réussi à atteindre les 500 000 entrées, notamment grâce à la notoriété des Oscars.
Après, sur Coda, qui n'est sorti que sur la plateforme, on n'a pas les chiffres.
C'était la vanne que j'allais faire.
Ouais, tout comme si c'était American Fiction qui avait gagné, comme le film est disponible en France que sur Prime, on n'aurait pas pu quantifier cela. En tout cas, le Oppenheimer, lui, pour en revenir là, est sur le top France de cette semaine, en 28e position. Il est en 35e semaine et il a ajouté 10 000 entrées à ses déjà 4,5 millions d'entrées, ce qui n'est pas négligeable.
Et surtout sur les sceptiques qui n'étaient pas prêts à aller voir Oppenheimer. Oppenheimer ou les films oscarisés. En tout cas, ça rajoute une visibilité, que ce soit en salle, que ce soit même après en VOD, sur les sorties DVD. De toute façon, c'est un plus. Tu reçois un prix, forcément, c'est un plus. Là, en plus, c'est Oscar du meilleur film. Donc, ça devient un objet à voir.
Et tu le vois avec Anatomie d'une chute, qui est depuis récemment disponible sur Canal+, qui est quand même programmé dans plus de 300 salles et qui arrive 16e au...
Voilà, on ne sait pas si le débat est clos, mais en tout cas, on a des éléments de réponse pour évoquer le succès des films primés aux Oscars. Alors Julien, je ne pense pas qu'on va retrouver Oppenheimer dans le top US international cette semaine. Il est sorti il y a bien trop longtemps. Par contre, il y a quand même quelques films américains qui reviennent au top de ce box-office.
Eh bien, ça revient au top, comme tu le dis. Ça tient ses premiers succès. Alors, on est sur un week-end US à 87 millions de dollars. La semaine dernière, c'était 136 millions. Donc, il y a une chute, puisqu'il y avait eu l'arrivée, la deuxième semaine de Dune, puis l'arrivée de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda reste en tête. Il rajoute 30 millions de dollars de recettes. Il perd seulement 48%. En 2008, le premier Kung Fu Panda, sur sa deuxième semaine, avait perdu 44%. Le deuxième, lui, avait perdu 50%. Le troisième, moins 49%. Donc, on est vraiment dans cette suite logique des Kung Fu Panda. En tout cas, la franchise a un trend qui se confirme et un énorme démarrage, puisque c'est la deuxième semaine de suite qu'il est en tête du box-office US. Juste aujourd'hui, il est à 107 millions aux US au cumul après ses deux premières semaines. Encanto, lui, il avait fini à 96 millions toute sa carrière. Puss in Boots, c'était 186. Wish, 63. Kung Fu Panda 3, 143. Et Kung Fu Panda 2, 165. On met de côté les gros titres qui dépassent les 500 millions de dollars de recettes comme un Super Mario. Mais c'est pour dire que c'est déjà un vrai succès, puisqu'il va dépasser, il va sûrement de toute façon dépasser les Kung Fu Panda, puisqu'il est devant après ses deux premières semaines d'exploitation. À date équivalente.
Kung Fu Panda 3, c'était il y a 8 ans, c'est ça ?
C'était en 2016, exactement.
C'est vrai que c'est de bonne augure pour le studio DreamWorks, parce que s'il arrive à dépasser le Chapeau des Deux, qui était leur précédent plus gros succès depuis un petit moment, ce n'est que de bonne augure.
Alors après, on va voir comment ça va se comporter la semaine prochaine, puisqu'il y a l'arrivée de Ghostbusters qui réunit un petit peu plus le côté famille et qui est attendu quand même à entre 35 et 50 millions de dollars de recettes pour ses débuts. Alors à l'international ou au worldwide, Kung Fu Panda 4, il est à 176 millions. 176 millions, donc ça le situe déjà à des hauteurs assez conséquentes, puisqu'il est sorti pratiquement partout. Il y a quand même quelques régions en France, on sait qu'il sortira le 27 mars. Que sur son cumul global de la franchise, il va déjà atteindre les 2 milliards, c'était déjà un premier objectif à franchir, mais déjà de se situer à ce niveau-là après deux semaines d'exploitation, personne ne l'attendait aussi haut. Donc de toute façon, c'est pratiquement déjà un succès.
Le film a bénéficié d'avant-première sur le territoire le week-end dernier. On y reviendra au moment du box-office France rapidement. Dune 2, lui, est en route vers le milliard, Julien, je crois.
Alors pour l'instant, c'est un peu tôt, Tom. Là, pour l'instant, on est au demi-milliard sur le worldwide. Alors, il a rajouté 29 millions cette semaine sur le box-office US. Il est au cumul américain, il est à 205 millions. 494 donc, millions de dollars de recettes au niveau worldwide. Il a déjà battu le premier Dune, lui, qui avait terminé à 431 millions. Donc, c'est vrai qu'alors on va plutôt le comparer, si tu veux, un Oppenheimer, pour voir s'il peut atteindre ce milliard. Et alors, sur sa troisième semaine, Oppenheimer faisait des chiffres à peu près équivalents, mais il était un petit peu en avance au niveau du worldwide. Donc, il devrait s'en rapprocher.
Et Oppenheimer finit à combien ?
Il finit à 999 millions. Non, il est tout juste proche du milliard.
Donc là, pour l'instant, Dune a un tout petit peu de retard pour aller chauffer ce milliard.
Exactement. Et il y avait aussi une nouveauté qui était sortie, c'était le film avec Mark Wahlberg,
Arthur the King,
lui qui a eu un démarrage, on va dire, un petit peu plus mitigé, puisqu'il a ouvert à 7,5 millions sur le box-office US.
Est-ce qu'on a une sortie française pour
à noter
celui-là
que non, le film n'est pas encore au calendrier.
Merci Arthur pour tes précisions.
Et alors, donc, si on se focalise là sur le worldwide, alors les films américains reprennent le dessus. Ça faisait longtemps, il y a 6 films américains sur le worldwide. Alors que c'est la première fois pratiquement, je sais plus si c'est depuis le début de l'année, mais en tout cas sur les 4-5 dernières semaines.
Depuis le Nouvel An chinois,
c'est ce que j'allais dire. De toute façon, c'est toujours une période où les films chinois prennent généralement le dessus. Donc on retrouve en troisième position, c'est un film taïwanais. Arthur, tu vas m'aider.
The Pig, the Snake and the Pigeon. En effet, c'est un film, une comédie d'action assez noire qui était sorti en 2023, mais qui continue son petit bout de chemin et arrive en troisième position en cumulant à l'international 10 millions de dollars et puis pour un cumul à 73 millions. Ensuite, on a une production Blumhouse sortie par Lionsgate et en France par Metro.
Par Metro, exactement. Imaginary, lui, qui cumule à 27 millions de dollars de recettes et qui avait fait 5 millions 6.
Pas si mal, non ? Pour Imaginary, qui n'était pas forcément le film d'horreur.
Qui n'était pas attendu. On aurait pu espérer qu'il aille un tout petit peu plus haut, autour des 50, mais ça reste un score tout à fait honorable. Après, on retrouve Exuma, le film coréen, lui qui cumule à 66 millions de dollars de recettes. Arthur the King, il est sorti qu'aux US. Remember Me, film chinois, lui, il est à 7 millions de dollars. Bob Marley, toujours dans le top 10, à la 8e place, 169. I Miss You, film chinois, 23 millions de dollars de dollars. Et One Life, 35 millions. Alors,
C'est une vie en France.
Une vie. Alors, on aurait pu le voir un petit peu plus haut, une vie, parce que c'est vrai qu'en France, il cartonne.
Ouais, énorme carton, on y reviendra.
Donc, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il soit peut-être un petit peu plus haut, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, je crois qu'il a 2 millions de dollars de recettes. Mm-hmm. Donc, forcément, il marche sur les territoires où les films indépendants où ont une vie un petit peu plus large.
Sachant qu'il a ouvert le week-end dernier aux États-Unis, d'après ce que
je crois. 2 millions, je crois que j'avais en tout cas. 7,
ouais. Donc, démarrage timide aux États-Unis. Le film s'en sort beaucoup mieux en Europe pour l'instant.
Exactement. Et alors,
quand même, encore une fois, 4 films asiatique sur le top 10 mondial. Et par contre, cette fois-ci, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la tendance, comme tu le disais, Julien, s'est vraiment inversée entre la bataille entre les films asiatiques et les films américains. Parce que les films américains qui ont le top 2 font plus de 150 millions d'entrées à 2. Et tous les autres films font 10 millions d'entrées ou moins, 10 millions de dollars au moins.
Et alors, tiens, je ne sais pas si tu as préparé un quiz, Max, mais j'ai une petite question. Quel est le premier film français qui apparaît dans le Worldwide 2024?
Ah, je l'ai pas.
Film français.
Anatomie d'une chute.
Non, c'est sur 2024.
Film français qui apparaît dans le Worldwide.
Le premier film français qui apparaît dans le Worldwide, ouais, qui a autour de 13 millions de dollars de recettes. Il n'y en a pas beaucoup hein, cette année.
Cocorico,
wow. Exactement. Enfin.
J'imagine sorti uniquement en France, évidemment.
Sorti uniquement en France, ouais. Alors peut-être Belgique, Luxembourg.
Oui, sur les pays francophones, ouais.
Bientôt tous les remakes européens.
Voilà, je crois qu'on a été assez exhaustif sur le box-office US et international. On va faire une petite pause dans les chiffres pour venir avec toi, Arthur, et parler d'un ou plusieurs trailers, de nouveaux trailers qui t'ont marqué cette semaine. Il y en a un. Tu as voulu en mettre un vraiment en avant, mettre la lumière sur...
Absolument, vous l'attendiez, c'est la bande-annonce du remake du film culte d'Alex Proyas qui était sorti en 1994 à l'époque, The Crow, qui a le droit à une nouvelle adaptation qui débarquera dans les salles françaises le 5 juin prochain grâce à Metropolitan Film Export. Donc cette nouvelle adaptation est portée par Bill Skarsgård, que vous connaissez tous en tant qu'interprète du clown Pennywise dans la franchise.
Tout à fait.
Ça.
Et le méchant dans John Wick 4 aussi.
Et le méchant dans John Wick 4, déjà de Metropolitan, absolument. Et du coup, bon, cette nouvelle bande-annonce a débarqué le week-end dernier, je vous invite tous à la découvrir. Et petite question, est-ce que vous saviez combien l'original qui, rappelons-le, est assez culte dans son genre, c'est l'adaptation d'un comic très très gothique, et il est surtout connu pour un fait divers très très malheureux et tragique, c'est Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui avait le rôle principal dans le film, qui a malheureusement été...
Tué
à cause d'une arme factice qui était d'une balle à blanc qui était malheureusement n'était pas à blanc et au cours du tournage d'une des scènes a malheureusement succombé à une blessure mortelle. Petite question du coup, est-ce que vous saviez le film sorti le 8 mars 1994 sorti à l'époque par GBVI Gaumont Buena Vista International, les anciens distributeurs qui distribuaient notamment les films Disney, combien d'entrées, combien de copies en 1994 pour The Crow, les deux?
Ah, c'est dur.
260 copies, allez, je vous le donne.
Je pense 260 c'est quoi, autour de 600, 650 000
350.
Ah, plus. Un million
plus. Un peu moins.
800.
854 000.
800. Beau score, beau score.
Ouais, joli score, et le film est vraiment resté dans les mémoires, et vraiment, en tout cas, pour en avoir parlé récemment avec plusieurs personnes, considéré comme culte par beaucoup de gens.
Et il aura le droit, du coup, à un remake pile 30 ans après la sortie de l'original. On aura l'occasion d'y revenir quand on évoquera le box-office France du mois de juin.
Réalisé mais
les, il est déjà l'heure d'évoquer le box-office France de, ce, de cette
on a,
semaine.
On
n'a
pas dit le nombre
mars.
De copies sur The Crow.
Ah bah il l'a dit, 260
copies. Ah pardon, j'avais pas entendu, excusez-moi.
Faut être attentif, on va vite.
Ouais. À noter que le réalisateur est un entre guillemets, spécialiste des remakes. C'est le réalisateur Rupert Sanders qui est déjà derrière les manettes de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson.
Qui avait fait le million.
Oui, que Paramount avait sorti en 2017. Mais également Blanche-Neige et le Chasseur, sorti en 2012 avec Kirsten Stewart.
Eh bien, comme vous m'avez tué ma transition, on attaque tout de suite le jingle et le box-office France. C'est parti.
Le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Oui, je le disais, le box-office France, alors un peu particulier cette semaine, puisqu'il n'y a plus de vacances scolaires dans aucune zone, et en même temps pas vraiment de grosses locomotives en sortie, et en même temps un samedi hyper ensoleillé, peut-être un des week-ends les plus ensoleillés depuis de nombreux mois, ce qui fait que tout portait à croire qu'on allait avoir un marché très bas. Finalement, c'est pas si mal, puisqu'on arrive quand même à se maintenir, le marché français arrive à se maintenir à flot au-dessus des 2 millions d'entrées. Bon,
oui,
Julien, c'est, si on compare par rapport aux années précédentes, c'est pas incroyable, mais ça aurait pu être pire quand même.
Alors, après le mercredi, moi j'étais plutôt sur un marché à 2 millions 2. Après le samedi, on est redescendu aux 2 millions, on les passe tout juste grâce à un très beau dimanche qui a super bien fonctionné. Comme tu le dis, on reste sur au-dessus de cette barre symbolique des 2 millions qu'on a eu du mal à passer durant tout le mois de janvier. Mais on est loin des normes de saison, puisque donc on perd 30% par rapport à la semaine dernière, on perd 25% par rapport à 2023, 10% par rapport à 2022. Et c'est là où le bas blesse, évidemment, parce que...
C'est clairement pas une année référence 2022. Ouais.
Oui, mais là, cette année, pour l'instant, c'est celle-là.
Ah ouais.
Et moins 40% par rapport à 2019. 2018, c'est moins 35%. Donc voilà, il y a toujours ce manque hors vacances, même pendant les vacances, puisqu'on a eu du mal à passer cette barre des 4 millions d'entrées.
Alors, il faut dire qu'au niveau de l'offre aussi, il manque clairement un film qui est en mesure de pousser le marché au-delà des 2,5 millions, voire 3 millions d'entrées. Et ça se matérialise quand on regarde notre top 3. Alors bon, sans surprise, Max, peut-être tu veux réagir sur le numéro 1 pour la troisième semaine consécutive.
Oh bah sans surprise, hein, comme tu dis, c'est Dune qui continue de dominer le marché. Il n'y a pas un film qui vient le concurrencer. Le film, il prend 480 000 entrées de plus. Il arrive à un cumul qui dépasse les 2,8 millions. Ouais.
Et il est largement premier, là, encore cette semaine.
Il est très largement premier. Il est sur la même lancée que Oppenheimer.
C'est exactement
ça. Dans sa troisième semaine, ou que Mourir peut attendre le dernier James Bond à peu près. Donc on l'estime à 4 millions si la tenue est bonne.
Exactement, il est à plus 35% par rapport au premier Dune. À date équivalente, le premier Dune, après 3 semaines, il était à 2 125 000 entrées. Et c'est vrai que le comps idéal pour l'instant, c'est Oppenheimer. Donc alors après, est-ce qu'il va aller chercher les 4 millions? A priori, il est sur la route. 4 millions 5.
Après, la tenue d'Oppenheimer, elle est énorme sur l'été dernier. Il profite d'un marché qui est fort, qui est poussé par Barbie pendant tout l'été. Il profite du manque de concurrence sur le segment. Après, Dune, il n'y a pas de concurrence sur le segment non plus. On va voir.
Mais et il ne faut pas oublier que tu as le printemps du cinéma qui arrive cette semaine et qui aura un impact vraiment, généralement, en tout cas de manière importante, sur la tenue du film, et qui va lui permettre justement d'aller chercher ces 4 millions encore plus rapidement et pourquoi pas tenir encore un petit peu plus longtemps.
Ça en fait déjà un des challengers pour le film numéro 1 de l'année 2024, parce que c'est pas forcément simple d'identifier des films cette année qui seront capables d'aller au-delà des 4 millions d'entrées, en tout cas au moins jusqu'à l'été, voire après.
Ah bah pour l'instant, tes deux locomotives, c'est évidemment Dune et a priori Kung Fu Panda qui arrive d'ici 15 jours. Donc oui, les locomotives se font attendre. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop sur les films français, malgré des bons scores comme Cocorico, qui est
Et le manque de locomotive se matérialise déjà quand on regarde la deuxième position, puisque c'est finalement assez étonnamment en quatrième semaine, Une vie qui reste en deuxième position, le film porté par Anthony Hopkins, 1 172 000 entrées au cumul, 139 000 entrées ajoutées ce week-end. Le film perd que 30% de ses entrées, c'est quand même une très bonne tenue, mais ça montre aussi que voilà, sur ce créneau, sur le créneau film, on va dire plutôt senior, il y a de la place et Une vie en profite pour faire une belle continuation. C'est vraiment un énorme succès pour SND, ce film.
Pour moi, ce succès, il confirme aussi, il confirme déjà le très bon bouche à oreille sur le film, mais il confirme aussi le manque sur le segment film art et essai porteur, et qui sort un petit peu du cadre du film français. Et je pense que c'est ça aussi qui a profité à Anatomie d'une chute, qui sortait un petit peu du cadre film français classique. Et c'est comme ça qu'Anatomie d'une chute, comme Une vie, mais même comme Bob Marley, lors de sa sortie, réussissent à prendre vraiment des entrées, parce qu'on a un public qui est pas forcément attiré par les films français, mais qui a envie d'aller au cinéma.
Et je regardais sur les autres pays. Donc il y a UK où le film marche très bien puisqu'il est à 12 millions de dollars de recettes. Et en deuxième position, la France, autour des 8 millions de dollars de recettes. Et derrière, plus bas, on retrouve l'Italie qui est à 2,73 millions de dollars de recettes. Donc en gros, le film fonctionne sur deux territoires pour l'instant.
En troisième position, c'est une nouveauté, la première nouveauté de la semaine. Il s'agit d'un film français sorti par un distributeur américain. Heureux gagnant, le film à sketch sorti par Warner, lui cumule 117 176 entrées à l'issue de ses 5 premiers jours, aidé par 1762 entrées d'avant-première. Voilà, c'est un démarrage, on va dire, dans la moyenne des comédies françaises de ces derniers mois, dans la moyenne haute même plutôt des comédies françaises. C'est mieux notamment pour son réalisateur Maxime Govard que le précédent, sa présente sortie, à savoir La Revanche des Crevettes Pailletées, c'était en 2019, je crois.
C'est mieux parce qu'il terminait autour des 150 000, mais moins bien que le premier Crevette qui avait fait plus de 500 000. Mais il se situe à la 15e, c'est le 15e meilleur démarrage de l'année. Il se situe entre Boléro qui avait ouvert à 139 et Iris et les Hommes qui avait ouvert à 145. Comme on le répète, hein, je me répète en tout cas, mais c'est vrai que ça va être plus. Il y a le printemps du cinéma qui permet vraiment au film une deuxième semaine généralement solide, avec des pertes beaucoup moins impactantes qu'à l'accoutumée. Donc, il peut quand même, le budget est dans la moyenne, il est autour de 5,6 millions. Donc, il pourrait, les notes sont plutôt positives. Moi, je le vois quand même aller chercher ses 400 000 entrées.
Ouais, pour moi, ça va vraiment dépendre de la tenue et des retours spectateurs. On va voir, les 115 000, c'est pas extravagant, c'est pas non plus catastrophique, c'est vraiment la durée de vie du film qui
va dessus. Et puis, il faut prendre en compte aussi le fait que le film est sorti sur 411 copies, ce qui en fait quand même une sortie assez large, hein, pour une comédie de cette envergure, et ce qui se répercute aussi forcément sur sa moyenne par copie, qui est relativement, on va dire, dans une moyenne basse, à 281. Une entrée par copie.
Ce qui nous amène une excellente transition avec le quatrième, Tom.
Exactement, un quatrième qui est également un démarrage, qui lui, pour le coup, est un film italien sorti par un distributeur américain. Finalement, les Américains ne sortent plus de films américains, mais des films européens. Non, je rigole, mais voilà, Universal nous a habitués ces derniers temps à sortir des films italiens, puisqu'il y avait Dernière nuit à Milan l'année dernière déjà. En tout cas, sur celui-ci, Il reste encore demain, c'est un démarrage encore plus satisfaisant que celui de Dernière nuit à Milan, puisqu'il cumule déjà, à l'issue de ses 5 premiers jours, 118 000 entrées, 117 936 pour être précis, aidé bien évidemment par une grosse campagne d'avant-première, 27 625 entrées d'avant-première, sur une combinaison, précisons-le, quand même très maîtrisée, à 172 écrans, avec donc forcément, par répercussion, une moyenne par copie beaucoup plus élevée que celle de Regagnant, à 527 spectateurs par écran.
Deuxième meilleure moyenne par copie, juste derrière Dune. Donc, c'est-à-dire que les salles ont bien rempli, ont été bien remplies ce week-end.
Devant Dune, moi je l'ai, la moyenne par copie, je l'ai au-dessus. Bref,
ah oui, tu as raison, pardon, elle est au-dessus.
Il reste encore demain, avec 90 000 entrées, on peut se dire, c'est pas fou, c'est derrière Regagnant, c'est le deuxième démarrage de la semaine, sauf que comme tu l'as dit, Tom, avec une combinaison de sorties très maîtrisée, c'est en fait un très bon score, et on peut là vraiment facilement parier sur une très bonne tenue du film. Ouais. Les retours spectateurs ont l'air excellents aussi, donc la carrière qui démarre très bien.
Non, les notes spectateurs sont excellentes. Et puis, c'est vrai que si on regarde du côté des films indépendants, même s'il y a eu cette vague d'avant-première, on est quand même plus 26% par rapport à Asteroid City, plus 34% par rapport à Empire of Light. Si on se retourne du côté des Italiens, c'est plus 56% par rapport à L'Immensità, plus 63% vers Un Avenir Radieux. C'était quand même des films italiens impactants qui ont marché avec des réalisateurs derrière.
Des films cannois.
Donc, le public, en tout cas, répond présent de manière très positive. Donc, le film, il risque de monter. Il va y avoir un bon bouche à oreille en plus. Donc, pour moi, c'est déjà presque un minimum de 300 000 entrées. Mais, mais je ne peux pas te dire où il va s'arrêter.
Je ne sais pas si tu sais, Julien, mais il y a le printemps du cinéma qui arrive.
C'est pas vrai.
Qui va vraiment aider la carrière.
Du dimanche au mardi, avec toutes les places à 5 euros, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Bah alors, c'est le meilleur démarrage pour un film italien depuis quand, Julien ?
C'est là où je voulais en venir, justement. puisque je crois que le film italien qui a eu le plus gros succès ces dernières années, c'était Le Traître. Je ne sais pas si tu as la possibilité, Julien, de retrouver le chiffre final.
Le final, c'est 460. Je sais parce que c'est ça l'objectif, c'est d'aller chercher au-dessus du Traître.
D'accord. Du coup, voilà la
question.
Tout
près du démarrage du Traître.
Ouais, la question, c'est de savoir est-ce que le film peut avoir une tenue suffisante pour devenir le plus gros succès italien en France des 10 dernières années.
J'aurais envie de te répondre oui.
Mais ça serait un peu prématuré. Donc on va laisser un point d'interrogation. En tout cas, on aura évidemment, je pense, l'occasion de reparler du film, puisqu'on va le retrouver.
Et il avait démarré à 110 000 entrées,
ouais,
Le Traître.
C'est vraiment le même démarrage.
Et pardon, Le Traître, il termine à 355 000.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Donc
ça
c'était
n'a
un
rien
autre film
voir.
Qui était. C'était un film cannois d'ailleurs qui avait fini à 460 000.
Mia Madre, exactement.
Ouais. Ah, donc c'est Mia Madre qui est numéro 1.
Donc les 360 000, oui, ça va dépasser, ouais. Le Traître.
Donc Le Traître, oui. Mia Madre.
On attend un peu.
Ok. En tout cas, on va reparler du film. J'en profite pour vous rappeler qu'une interview de la réalisatrice et de l'acteur principal ont été enregistrées par Julien et moi-même il y a maintenant quelques jours, et qu'elle est désormais disponible sur l'appli, gentiment postée par Luca sur l'appli, mais également sur nos réseaux habituels. En cinquième position, il est en cinquième semaine, ça tombe bien, Maison de retraite. Deuxième partie, 1 384 000 entrées pour le film distribué par Apollo. Finalement, la fin des vacances scolaires ne lui fait pas tant de mal que ça, puisqu'il perd que 42% de ses entrées. On en est où sur Maison de retraite 2 par rapport au premier épisode, Julien ?
Maison de retraite 2, on est à moins 21% par rapport au premier épisode, qui était, après 5 semaines d'exploitation, à 1 750 000 entrées. On l'a répété, mais c'est vrai que c'est déjà un sacré score, une belle tenue. Le film est présent avec beaucoup de profondeur et ça plaît, ça tient. Donc bravo en tout cas pour ce beau succès. Et je reviens juste sur la cinquième position. C'est peut-être qu'on en reparlera au moment de la sortie, mais c'est vrai que les avant-premières de Kung Fu Panda, c'était à hauteur de plus de 100 000 entrées.
Plus de 100 000 entrées, ouais.
Plus de 100 000 entrées. Le positionne directement juste avec ses avant-premières en cinquième position, ouais. Mais comme on les rajoutera sur le premier jour, on en reparlera une prochaine fois.
Il ne peut pas gagner sur tous les tableaux, c'est pas possible. En tout cas, officiellement, le cinquième de cette semaine, c'est Maison de retraite 2.
Et alors qu'il avait quand même un budget qui est quand même à 12 millions d'euros. Donc, il avait quand même un peu de pression, il n'avait pas le droit de se louper.
Un budget, on le rappelle, bien supérieur au premier épisode d'ailleurs.
Exactement.
Et Maison de retraite 2 sur les 4 films français qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu pendant les vacances de février, à savoir Cocorico, Maison de retraite 2, Le Dernier Jaguar et Chien et Chat, on voit que c'est le dernier qui reste encore dans le top 5.
En sixième position, c'est également un film français qui lui est sur son deuxième week-end. Je parle de Boléro de Anne Fontaine, 248 000 entrées pour le film Descendez, moins 49% tout de même, attention, hein, c'est quand même une perte importante, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais je pense que c'est vraiment le genre de film qui peut aussi profiter à pleine balle du printemps du cinéma.
Et il sera présent, il sera présent. Alors après, c'est vrai que si on compare avec Coco avant Chanel, de la même réalisatrice Anne Fontaine, il était à 643 000 après 10 jours. Donc là, il est quand même largement en dessous. Il a, comme tu dis, il a quand même perdu moins 48% où on pouvait s'attendre à une tenue un petit peu plus forte. Mais je pense qu'il est content que le printemps du cinéma soit là.
Ouais. Ouais. Après, il va chercher un public qui est un peu similaire à
Une Vie aussi. Ouais. Exactement.
Coup, c'est jamais très confortable d'avoir deux films qui vont chercher un peu le même public.
Et voir aussi, alors dans un style différent, mais Maison de Retraite. Mmh. Un peu plus de profondeur pour Maison de Retraite.
Voir, il reste encore dedans.
Alors peut-être un film sur un autre, pour un autre public peut-être, et encore, c'est à voir, Bob Marley, One Life, c'est une des grosses surprises. One Life, c'est Une Vie.
C'est un mixte, c'est un nouveau film, c'est le prochain.
Bob Marley, One Love, donc lui est en cinquième semaine, il est aux portes des 1 800 000 entrées. C'est vraiment une on l'attendait pas à ce niveau-là, le film sorti par Paramount, et avec un peu de chance il peut aller aux 2 millions d'entrées, ce qui est pas arrivé pour un film musical depuis Bohemian Rhapsody, je crois,
qui était à 4 millions, voilà. Mais ça, qui est un cas à part,
sachant qu'un autre biopic musical sorti également par Paramount, qui était celui sur Elton John, lui s'était arrêté avant les 2 millions d'entrées.
Le Rocketman
avant, oui, le 1 million.
Le Rocketman, c'est 756 000 entrées
même avant les 1 million d'entrées. Donc voilà, finalement,
tu avais Elvis qui avait passé la barre du million, qui avait terminé à 1 million 2,
1 million 5,
1 million 2, j'ai, on vérifiera.
Donc voilà. Une...
Et il est même devant Napoléon.
Ouais.
C'est exactement ce que j'allais dire. Qui aurait pu prévoir il y a 6 mois ou 6 ou 7 mois que le biopic sur Bob Marley allait faire plus que celui sur Napoléon en France? C'est la preuve que c'est vraiment un bon score pour Bob Marley.
Ouais. Les spectateurs français préfèrent la ganja à la guerre. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs? En 8e position, Cocorico. On parlait de comédie française des vacances de février. Ça en fait partie. Désormais 1 800 000 entrées. On est vraiment sur la même carrière que Bob Marley One Life, avec une semaine de plus, parce que lui, il est déjà sur son 6e week-end, moins 52%. Il perd plus que Maison de Retraite sur un comparable similaire. Mais c'est tout de même une belle opération. C'est un peu la même carrière, finalement, que Chasse gardée avec Didier Bourdon. On le savait, on s'en doutait. Le film va a priori passer les 2 millions d'entrées. En 9e position, 14 jours pour aller mieux. On est également sur la comédie française. Lui, il est sur son 2e week-end. 200 000 entrées pour la comédie sortie par Wild Bunch. Bah, c'est pas si mal.
C'est pas mal. Il s'en sort plutôt bien. J'ai pas grand-chose à dire sur le film.
Non, mais voilà. Pas forcément avec un... C'est pas une comédie avec un gros cast comme peut l'être Cocorico ou Maison de Retraite 2. Évidemment, on n'est pas sur les mêmes deltas d'entrée, mais le film fait une carrière honorable. Et
non, non, mais
voilà,
c'est un beau score.
C'est
déjà
la comédie fraîche, quoi, du moment.
Déjà, de passer les 200 000, c'est jamais gagné d'avant. Il avait fait une grosse tournée avant, il avait rempli ses salles. Il répond présent, donc moi, je trouve ça très encourageant.
La chute de 56%, voilà. Piquant un peu en deuxième semaine, il ira probablement pas chercher beaucoup plus de 300 000, mais c'est déjà bien d'avoir fait les 200.
C'est le gros bémol, en effet, Max, la chute de 56%, elle est à noter.
Ouais, mais il n'y a plus beaucoup de films français qui arrivent à atteindre les 300 000, c'est quand même un beau score, surtout si on reprend toute la liste des films français l'année dernière qui ont dépassé les 300 000. Voilà, moi je trouve ça très positif comme résultat.
On clôture ce top 10 avec un autre démarrage scandaleusement vôtre. C'est un film anglais chez Studio Canal. Lui, sur une combinaison finalement assez similaire à celle d'Il reste encore demain, sortie la même semaine, mais avec un destin moins radieux pour l'instant. 47 000 entrées au cumul, avec 1900 entrées dans mon première. Voilà, c'est un petit démarrage pour le film porté par Olivia Colman.
Bah, je pense qu'il a subi un petit peu la foudre justement d'Il reste encore demain.
C'est possible, ouais.
T'as aussi la salle des profs qui se maintient bien, qui sont un petit peu sur un public en tout cas similaire,
ouais,
voire même
des profs à 131 000 entrées, hein, ce qui est très, très, très notable et très satisfaisant pour le film.
Donc forcément, il y a toujours... c'est compliqué de faire marcher tous les films qui ont des publics similaires en même temps, hein, on le sait.
Et puis, quand on voit les autres démarrages de la semaine, on dit que Scandaleusement Vôtre s'en sort pas si mal que ça.
C'est vrai. Et les autres démarrages, ce sont notamment... Peut-être que tu veux les faire, Max ?
Allons-y, il y a La Nouvelle Femme qui est sortie par Ad Vitam qui fait 41 000 entrées dont 10 000 d'avant-première, donc seulement 31 000 sur le week-end. Il y a juste derrière sur le week-end, on a
Les Rois de la Piste,
sorti par Apollo, porté par Fanny Ardant.
On aurait pu le voir plus haut, Les Rois de la Piste.
Ah ben oui, j'imagine, ouais. C'est quand même, enfin, c'est quand même pas terrible pour un film, une comédie populaire portée par Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz. Ils font un peu moins de 30 000 entrées.
Le dernier film de Thierry Cliffa, c'était Tout nous sépare, qui avait ouvert à 85 000 entrées. Il avait terminé à 166 000. Les yeux de sa mère avaient ouvert à 93 000. Donc, il est largement en dehors de ses standards habituels, j'ai envie de dire.
Oui, mais après, là, on va avoir que des... Enfin, la plupart des démarrages, à part vraiment Il reste encore demain, il n'y a pas de vraies belles performances cette semaine.
Un autre démarrage en 21e position, Max.
En 21e position, c'est Chronique de Téhéran, bon, qui s'en sort pas si mal lui, mais qui fait 18 000 entrées sur 95 copies, donc c'est pas une si mauvaise moyenne par copie que ça, mais c'est quand même pas incroyable. Il passe les 20 000 entrées grâce à ses 4 000 entrées d'avant-première. Ensuite, on a Dans la peau de Blanche Houellebecq, qui fait 10 000 entrées sur 100 copies.
On le rappelle, film de Guillaume Niclou.
Film de Guillaume Niclou, sorti par Bac Film. Ensuite, on a The Sweet East, sur 28 copies, qui a fait 6 900 entrées, plus 100 000. Il passe les 8 000 entrées en comptant ses avant-premières.
Merci, Max.
Et on sait ce que c'était le Final Fantasy 7.
C'est une reprise d'un film qui était, je pense, sorti directement dans les années 2000 et qui a été masterisé en DCP.
Et pour les fans, parce qu'il me semble qu'il y a un jeu vidéo qui sort de Final Fantasy.
Le jeu, c'est un remake également. Et, on est sur,
des reboots, quoi.
Les synergies de groupe. Et c'était une sortie sur 500 séances uniquement sur le week-end.
Arthur, tu voulais parler d'un film.
Oui, je voulais relever les 37 000 entrées du film Imaginary pour son deuxième week-end, qui enregistre quand même une baisse de 54%, ce qui n'est pas choquant pour les films d'horreur. Mais rappelez-vous, on en a parlé au début de podcast, le film arrivait dans le top 10 worldwide et arrive du coup ici pour la France en 12e position.
Oui, il dépasse les...
Il
dépasse les 100 000 entrées, donc c'est un score tout à fait correct pour un film de ce genre-là. Il va sûrement arriver entre 150 et 225 000 fin de carrière, c'est correct, c'est bien.
Et ça prouve qu'il y a de la place en ce moment pour le film d'horreur, puisque c'est la seule proposition horreur en ce moment à l'affiche.
Et avant la nouvelle arrivée du prochain film d'horreur distribué par Metro la semaine prochaine, ce qui nous permet de rebondir à notre petit podcast, à notre petit sondage.
Immaculé.
Et avec Ciné Soigny, la femme du moment, on peut dire.
Absolument. Alors, pour en revenir au sondage, on a 4 film qui était en compétition cette semaine, qui sort tous la semaine prochaine, Hors saison de Stéphane Brisé, Immaculé porté par Sidney Sweeney, Bis Repetita et Karaoké. Selon vous, qui arrive en premier? Attention, la réponse risque de vous surprendre.
Moi, je pense anticiper un peu notre public de votants et
alors,
dire...
Justement, c'est ce que je pensais aussi.
Karaoké arrive en tête.
Je ne dirai rien, Karaoké...
Oh, je dirais hors saison.
Hors saison.
Moi, je dirais hors saison aussi, mais on doit se tromper.
Eh bien, vous avez tous faux, car je pense que la promo organisée par Metropolitan porte ses fruits. C'est Immaculé qui arrive en première position. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Oui. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça sur un film d'horreur, en tout cas, qui ne se présente pas à première vue comme un petit peu arty. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude, en tout cas, sur ces sondages des bruits films, de voir des films un petit peu plus...
Et ça confirme ce qu'on disait, il y a de la place pour l'horreur en ce moment dans nos salles.
Mais depuis le début de l'année, je crois qu'il n'y a pas un film d'horreur qui est sorti sur minimum 5 copies qui a fait moins de 100 000 entrées.
Après, tu as différentes strates sur les films d'horreur. Tu as les films d'horreur, alors tu as raison, hein, mais c'est vrai que tu as les films d'horreur Night Swim, Imaginary qui sont entre 150 et 200 000. Tu as les films d'horreur qui sont perçus, ou en tout cas qui ont un public un petit peu plus large, un petit peu plus féminin, un petit peu plus bande de potes, qui sont autour des 350 000, 400 000. Et des films qui sont vraiment très attendus, qui deviennent des blockbusters d'horreur, qui vont chercher entre 700 et 1 million et plus.
Ce que je veux dire, c'est juste que cette année, films d'horreur qui auraient pu faire 80 000, 50 000 entrées ont quand même dépassé les 100 000.
Mais tu as complètement raison.
Il n'y aura pas que ces 4 nouveautés cette semaine en salle. Semaine, on le rappelle, éminemment importante, puisqu'il y a le printemps du cinéma à partir de ce week-end. En tout
printemps
cas,
du cinéma.
Et ouais. En tout cas, on trouvera en plus de Karaoké, Hors Saison, Bis Repetita et Immaculé. On trouvera également les sorties de Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Consentant. C'est une comédie canadienne chez Wayna Peach. On aura également de l'animation chez The Jokers, La Jeune Fille et les Paysans. Un documentaire chez Films du Losange, Averroé et Rosa Parks. Ça, c'est Nicolas Philibert, que vous connaissez tous bien, je pense. Un drame chez Eurozoom, Laissez-moi de Maxime Rapaz. Un autre drame américain, là on est chez Sage Distribution sur un format Sage Event, à savoir 3 séances uniques par salle. Je parle de Cabrini, de Alejandro Monteverde. Un documentaire de Christine Angot chez Nourfilm Une Famille. Un drame chinois chez Bodega Blue Summer Song Sung Blue. Et enfin, chez les Alchimistes, un documentaire estonien, Smoke Sauna Sisterhood. Chez l'atelier de distribution, un autre documentaire, c'est beaucoup de documentaires cette semaine, Le Monde est à eux, de Jérémy Montagneux. Et je termine avec des toutes petites sorties sur moins de 10 écrans. On a Les Poussières, de Jean-Claude Taki, chez Apatom. Et enfin, Le Voyage d'Amélie, Amélie Rent. Ça, c'est chez, c'est un film d'aventure chez Fanny Dorian Distribution. Voilà, ça nous fait 15 sorties et 15 belles nouveautés dans nos affiches, dans nos salles, pour porter cette semaine de printemps du cinéma. On aura l'occasion de débriefer ces résultats dès la semaine prochaine.
Et de parler du printemps du cinéma.
Et je l'ai déjà dit, merci Julien. Et non, et juste voilà, petit rappel aussi sur, je l'ai dit pendant le podcast, mais je vous le redis, n'hésitez pas à redécouvrir ou à découvrir l'entretien que nous avons réalisé avec l'actrice, réalisatrice et l'acteur principal du Il reste encore demain dans le cadre du Junket organisé à Paris il y a une dizaine de jours. Merci messieurs, et je vous souhaite à tous une bonne semaine et à très vite.
Joyeux printemps du cinéma.